Bonjour. Romains chapitre 4, verset 13. La foi, on est sur le chapitre de la foi, et on a commencé à parler d'Abraham, au verset 1 du chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? On se rappelle que ici, Paul montre par la loi, c'est-à-dire aussi l'enseignement de Moïse sur Abraham, il montre que la loi atteste la justification par la foi. Et il va maintenant développer un petit peu la foi d'Abraham. Comment est-ce que Abraham a eu la foi? Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il avait reçu une promesse. Cette promesse, c'est d'avoir un fils, et par ce fils, d'avoir un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel. Il est dit aussi à Abraham dans Genèse chapitre 12 que sa postérité, enfin que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et c'est ce que Paul appelle ici l'héritage du monde. D'accord? Dans ce sens que par la foi, Abraham hérite des promesses, et ces promesses, finalement, c'est de répandre l'évangile sur toute la terre et que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Vous voyez? Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Ça veut dire que l'héritage du monde, l'héritage de la bénédiction, est promis à Abraham sur la base de sa foi et non pas sur la base de ses œuvres. Verset 14, si c'est par la foi qu'on est héritier, si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Si vous êtes héritier, c'est quand la mort de celui qui a fait le testament est constatée que vous devenez héritier. Vous pouvez être méchant, bon, tordu, pas tordu, riche, pas riche, ça n'a rien à voir. Vous êtes sur le testament, donc vous héritez. Point barre. Ça ne dépend pas de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Ça dépend du testament qui est lu devant le notaire. Vous êtes d'accord avec moi? Rappelez l'histoire, je ne sais plus, il y a un film là, un vieux film que j'aime bien, où on voit, il y a une histoire d'héritage en Normandie. Je ne sais plus qui est l'acteur, je crois que c'est Bourvil qui est l'héritier, et puis il fait un peu le benêt comme ça, et toute la famille est scandalisée de ce que ce jeune homme un peu benêt, qui n'a même pas le certificat d'études, puisse être l'héritier, vous voyez? Bon, le testament là stipule qu'il doit passer le certificat d'études pour hériter. Alors la tante est furieuse, et puis elle essaie de le décourager de passer son certificat d'études. Il a déjà à peu près 30 ans. Mais, si vous voulez, même si ça rend les gens furieux, que vous soyez l'héritier, même si ça rend les gens jaloux, néanmoins, si vous êtes héritier, vous êtes héritier, vous êtes d'accord avec moi? Ça ne se discute pas, ça. Donc ce n'est pas par la loi qu'on est héritier, c'est par la foi. Hein? Si c'est par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Alors ici, Paul anticipe sur un autre chapitre où il va expliquer que c'est la loi qui donne la connaissance du péché, et puis c'est quand j'ai la loi que je me rends compte de ma nature de péché et que je suis poussé à la transgression. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression, effectivement, la transgression, elle est par rapport à une... Si je prends un exemple de terrain de football. Quand j'étais enfant, j'habitais à Saint-Étienne, donc on jouait au football tout le temps, dans la cour de récréation, sur les terrains vagues, partout, partout. D'accord? Parce qu'on se prenait pour les joueurs de l'ASS. Vous voyez? Mais on n'était pas sur des terrains, enfin assez rarement sur des terrains qui étaient balisés ou avec le bord marqué à la craie. Vous voyez? Donc, on faisait la touche où on voulait. Vous voyez? Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. C'était un petit peu, vous voyez, on pouvait jouer on pouvait même jouer avec le ballon sur 1 km, c'était pas grave parce qu'il n'y avait pas de limite qui était fixée. Hein. C'était pas comme un terrain avec le juge de touche, etc. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Vous suivez? Pourquoi est-ce qu'il est dit la loi produit la colère? C'est parce que si justement il y a la loi, il y a la transgression. Et si la transgression est là, à ce moment-là, on est sous la colère de Dieu, parce qu'on a transgressé sa loi. Vous suivez? Et comme on a cette mauvaise nature de péché qui est là, nécessairement la loi va être transgressée et nécessairement on va être sous la colère de Dieu. Donc la loi produit la colère. Mais si c'est par la foi, ok, et que Dieu change finalement notre cœur, à ce moment-là, on n'est plus sous la colère de Dieu. Et c'est justement la force et la puissance de l'évangile, c'est de nous faire échapper à cette colère. On le verra au chapitre suivant. Verset 16. Donc, c'est par la foi, dit Paul, pour qu'il s'agisse d'une grâce. Et par la foi, sous-entendu qu'on est héritier, hein. Pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, sous-entendu le peuple d'Israël, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, sous-entendu les païens qui croient en Jésus, et les fils d'Israël qui non seulement ont la circoncision dans la chair, mais qui ont aussi suivi Abraham dans les traces de sa foi avant sa circoncision, d'après le verset 12, vous voyez? Donc toute la descendance, nous sommes nous aussi par la foi la descendance d'Abraham, vous rendez compte? Regardez avec moi dans Galates chapitre 3. Alors, Galates chapitre 3. Il y a un parallèle évidemment important entre l'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Verset 26 de Galates 3, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Vous vous rendez compte? Vous êtes la descendance, et là il parle à tous. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus de, voyez, de distinction. Dans ce sens-là, quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus sur la terre ou qu'on est déjà au ciel, dans ce sens-là. Mais du point de vue de l'héritage, du point de vue de la foi, il n'y a plus ces distinctions-là. Vous voyez? Vous savez que selon certaines lois, c'est le fils qui hérite ou pas les filles, ou alors s'il y a les filles, parce que dans la loi de Dieu, les filles peuvent aussi hériter. Si elle ne se marie pas en dehors du clan, vous voyez, enfin, il y a des... Mais enfin, je veux dire par là qu'il y avait des règles. Est-ce que tu es un fils? Est-ce que tu es une fille? Est-ce que... Mais là, il est dit tout le monde, tous ceux qui croient, qui sont à Jésus-Christ, sont la descendance d'Abraham. C'est extraordinaire, non? Héritier selon la promesse. C'était le directeur d'une école biblique au Danemark, pendant la guerre, Siegfried Beck, qui avait reçu cette parole du Seigneur, « Si tu marches sur les traces de la foi d'Abraham, je te mettrai en contact avec des fils d'Abraham. » Et il a construit une école biblique de, je crois, plus de 100 ou 200 places, avec des chambres, avec des salles de cours, enfin, un bâtiment assez énorme. Et... à une époque qui était pendant la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, où ça paraissait fou de faire un projet comme ça. Il y avait encore l'occupation, et il a reçu ça par la foi, ils ont commencé à construire, et effectivement, Dieu l'a mis en contact avec des fils d'Abraham. Oui. Des fils d'Abraham, c'est-à-dire des juifs. Des juifs. Quand Dieu lui disait, je te mettrai en contact, si tu marches, avec la foi d'Abraham, je te mettrai en contact avec des fils d'Abraham. Là, les fils d'Abraham en question, c'était selon la chair, tu vois. Mais ça voulait dire, si tu marches, toi, en tant que païen, en tant que non-juif, sur les traces de la foi d'Abraham, et que tu fais une œuvre qui paraît impossible aux hommes, et que tu persévères dans la foi, comme on va le voir tout de suite là, eh bien, ça te distingue à cause de ta foi. Et à cause de cette distinction, tu vas pouvoir comprendre les fils d'Abraham, qui sont, eux, dans cette marche par la foi depuis des siècles, quelque part. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'ils ne les dispensent pas, eux, à chaque génération, de faire l'expérience de la justification ? Vous comprenez ? Bien. Alors, on est dans Romains, chapitre 4. On parle de la toute la descendance, c'est-à-dire la descendance, si vous voulez, selon l'esprit, la descendance selon la chair, toute la descendance d'Abraham. Verset 17, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », ça c'est dans Genèse chapitre 17, ça c'est la promesse de Dieu à Abraham. Il est notre père à tous, donc là, votre texte répète ce qui était dit à la fin du verset 16, parce que si vous voulez, la phrase « selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations », c'est une incise, c'est une forme de parenthèse. Mais on revient à la fin du verset 16. Donc, Abraham, notre père à tous, il est notre père à tous, maintenant verset 17, devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Comment est-ce qu'il peut être notre père à tous? Pourquoi est-ce qu'il rajoute cette expression « devant Dieu » ? Vous voyez ? C'est parce qu'il est notre père à tous du point de vue de la foi, c'est-à-dire dans sa marche devant Dieu. Quand on marche par la foi, on marche devant Dieu, on ne marche pas devant les hommes. Vous suivez ? On ne marche pas, comment dire, sous la critique ou les compliments. On ne marche pas aux compliments. On a tous besoin de compliments, non ? Moi, je marche beaucoup aux compliments. J'aime bien quand on me dit, ma femme me dit, tu veux des petits poissons ? Parce qu'on avait vu une fois une formation sur les couples où on voyait qu'on donnait des petits poissons aux dauphins et que les hommes, ils avaient besoin de petits poissons. C'est des compliments. Mais ça, c'est l'être humain. Okay ? Mais marcher devant Dieu, c'est pas chercher la gloire des hommes. C'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 5, comment est-ce que vous pouvez croire, vous qui cherchez la gloire qui vient des hommes ? Sous-entendu, vous ne pouvez pas croire. Vous savez ? Mais si vous cherchez la gloire qui vient de Dieu, vous serez prêt à marcher à contre-courant, parce que marcher par la foi, c'est marcher à contre-courant. Ok ? C'est se faire critiquer. C'est créer autour de nous une gêne, où les gens disent, mais pourquoi il ou elle fait les choses comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur comme nous ? Vous voyez ? Ou bien pourquoi est-ce qu'il craint ces choses que nous on ne craint pas, et puis il y a d'autres choses que nous on craint et lui il ne les craint pas. C'est parce qu'il est dans la foi. Vous suivez ? Donc ça crée une gêne, ça crée une sorte de jalousie ou de séparation, hein, de guerre. Ça crée la guerre. C'est Jésus qui a dit, je vais mettre l'épée entre la fille, la belle-fille, entre, vous voyez, les parents, les enfants, pourquoi ? Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que si vous marchez dans la foi, vous marchez à contre-courant. Vous êtes pas, vous cherchez pas la gloire des hommes. Vous cherchez la gloire de Dieu. David a subi beaucoup de reproches, même de ses proches. Je ne fais pas de jeu de mots. Hein. Il a subi des reproches de ses proches. Pourquoi ? Parce qu'il a eu des attitudes qui étaient incompréhensibles pour ceux qui l'entouraient. Vous connaissez l'histoire. Il a péché avec Bathsheba. Nathan est venu le voir. Et puis il s'est repenti. Le fils de l'adultère était né. Et cet enfant est tombé gravement malade. Et il s'est mis à jeûner et prier pour la guérison de l'enfant. Et au bout de 7 jours de jeûne, il était couché par terre, il était dans le jeûne le plus total. Il y a ses serviteurs qui commencent à parler tout bas, et lui, il comprend que son fils est mort. Alors il se lève, il va prendre sa douche, enfin, c'est moi qui actualise, il se oint, vous savez, et il met des vêtements, des beaux vêtements, il va se prosterner dans le temple de l'Éternel, et puis il se fait servir à manger. Les serviteurs disent, mais il est fou. On ne comprend rien. Quand son fils est malade, il jeûne. Quand son fils est mort, il fait la fête. Enfin, entre guillemets. Et puis David leur dit, mais il ne faut pas vous étonner. Pendant qu'il était malade, moi, je priais pour que le Seigneur le guérisse. Maintenant, il est parti. Il est parti. Je ne vais pas pouvoir le faire revenir. Donc, ben, je me suis fait une raison. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'arrête le jeûne. Parce que si je jeûnais, voyez, sous-entendu, si je jeûnais, C'était pas pour, comment dire, le regard des hommes, pour que les hommes puissent dire, ah, comme le roi est triste, il y a son fils qui est malade, bla 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 bla. C'était devant Dieu que je jeûnais, c'était pas devant vous. Et si j'arrête de jeûner, c'est pas devant vous, c'est devant Dieu. Vous suivez? Donc il vivait devant Dieu et non pas devant les hommes. Donc, devant Dieu, il est notre Père à tous, devant Dieu. Et vous ne pouvez pas être fils d'Abraham par la foi si vous ne marchez pas devant Dieu et si vous marchez devant les hommes. Ça ne marchera pas. Dieu qui donne, en qui il a cru, parce qu'Abraham a cru en Dieu, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Dieu qui donne la vie aux morts, et là on va plus loin que David, parce que David il dit, il est mort, maintenant je ne peux plus rien faire. Mais Dieu donne la vie aux morts. Voyez? Oh, Dieu donne la vie aux morts physiques, aux morts spirituelles. Dieu donne la vie partout à la mort, quelle que soit la forme de la mort. T'as déjà vu que la mort puisse arrêter Dieu? Elle nous fait peur à nous, mais elle ne fait pas peur à Dieu. Alléluia. Donc, et puis il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il est créateur, si vous préférez. C'est intéressant parce que dans la Genèse, quand il est dit comment est-ce que Dieu a créé, Dieu nomme les choses. Vous avez remarqué? Il dit que la lumière soit, la lumière fut, et puis il appelle la lumière jour, et là, les ténèbres, il sépare, et donc Dieu crée, il nomme, il donne existence. Vous suivez? Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire que dans votre vie de foi, vous pouvez participer à l'œuvre de Dieu vous-même en appelant à l'existence des choses qui n'existent pas encore. La plupart du temps, les chrétiens, et souvent j'en fais partie, ils se plaignent. Oui, vous parlez avec un pasteur, oui, mais j'ai pas de leader. Ok. Est-ce que ton Dieu est créateur, oui ou non? Qu'est-ce que tu attends pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Qu'est-ce que tu attends pour voir dans les membres de ton église des leaders potentiels par la foi et les appeler à l'existence, vous comprenez? Et faire sortir de leur, comment dire, timidité, leur crainte, etc., qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est la capacité divine qui nous est donnée lorsqu'on prononce les paroles de Dieu par la foi. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Il donne la vie aux morts. Il l'a fait. Il y a eu beaucoup de résurrections dans la Bible. Il le fait encore aujourd'hui. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant et il ressuscite ce qui est mort. Vous connaissez Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés, où Dieu pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces os peuvent revivre, Ézéchiel? Il voit des ossements, vous savez, des Maccabées, là, des ossements desséchés à la surface du sol, en quantité. Et c'est comme s'il plane au-dessus parce qu'il est emmené par l'esprit. Vous imaginez un peu le choc? C'est grave, hein, comme vision. C'est terrible. Et en plus, Dieu le secoue en lui disant, bon, maintenant, tu as vu qu'ils étaient bien secs, hein, tu as bien remarqué, c'est bon, ils sont bien morts. Oui, ils sont bien morts. Est-ce que tu penses que je peux les faire revivre? Et Ézéchiel, prudemment, lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, hein, je ne vais pas trop m'avancer, c'est toi qui sais. Et ensuite, Dieu lui dit, bon, non seulement je peux les faire revivre, mais c'est toi qui vas leur prophétiser la vie. Vous voyez? Et tout à coup, Ézéchiel, il dit, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et puis il entend un bruit, les ossements se rapprochent les uns des autres, se mettent en, j'allais dire, en ordre de bataille. Enfin, en tout cas, les membres. Parce que vous savez, avant qu'il puisse y avoir la résurrection, il faut la mobilisation, il faut la remobilisation. Il faut, si vous voulez, il y a des rendez-vous de Dieu pour la vie. Si le Saint-Esprit commence à travailler en vous, il va vous appeler à aller quelque part ou à faire quelque chose ou à vous connecter avec un endroit ou avec un ministère où vous allez trouver la vie. Et tout à coup, ces ossements qui étaient dispersés, vous savez, quand il y a une guerre, il y a un membre qui est coupé et qui est jeté au loin, ou on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme cataclysme qui fait que tous ces ossements sont dispersés. Mais là, les tarses et les métatarses, je ne sais plus comment on appelle tous ces os là, ils se remettent dans le bon ordre et le squelette apparaît. Vous suivez? On reconnaît tout à coup un squelette. C'est plus des ossements en vrac, hein. Et donc, il faut répondre à un appel d'abord d'être connecté, d'être au bon endroit, au bon moment, pour recevoir la vie. Vous suivez? Il y a très longtemps, enfin très longtemps, c'est façon de parler, mais il y a bien des années, on recevait dans notre église en Haute-Savoie un journal des églises et lignes d'Angleterre. Et puis, j'étais le traducteur officiel patenté de mon pasteur. Et je lui traduisais de temps en temps un article où je lisais, enfin je feuilletais, vous voyez, j'étais pas. Et puis, il le reçoit, il me dit, tiens, Jean-Hugues, regarde, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis je feuillette, puis tout à coup, je vois un titre. Is it revival? Ça voulait dire, est-ce que c'est le réveil? Point d'interrogation. Et puis, je suis comme intrigué, je lis ce texte. Et ça racontait une église anglicane à Londres qui s'appelait Holy Trinity Brampton, qui est devenue l'église phare maintenant des cours alpha dans le monde entier, mais qui à l'époque était une église anglicane parmi tant d'autres, si on peut dire ça comme ça, bien qu'elle soit au centre de Londres. Et il racontait comment, c'est un journaliste qui raconte qu'il est entré dans cette église, qu'il a vu le vent qui soufflait dans l'église alors que toutes les portes étaient fermées, et les gens qui commençaient à tomber par terre dans la présence de Dieu, enfin des manifestations, etc. Et puis l'article continue par dire que les gens vont au Canada, à Toronto, ils reviennent, et puis ils sont bouleversés, il y a des réconciliations, et enfin, il raconte un peu ce qui se passe. Et au moment où je lis cet article, j'ai été rempli du Saint-Esprit. D'accord? J'avais pas. Vous savez que même sur. Des fois, une lettre ou sur un article, il peut y avoir l'action de Dieu. Vous suivez? C'est John G. Lake qui raconte que quand il y a eu le réveil en Afrique du Sud au début du XXe siècle, ils avaient un journal où ils racontaient les témoignages du réveil qui se passait dans la ville, dans la capitale, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais enfin, quoi qu'il en soit, en Afrique du Sud. Non, pas le. Oui, enfin, c'était pas le Cap, c'était Johannesburg, je crois. Johannesburg, je suppose. Mais enfin, bon. Qu'importe. Et ils envoyaient ce journal. Bon, à l'époque, c'était la Poste, etc. Ils envoyaient par la Poste à des gens un peu dans tout le pays, de l'Afrique du Sud. Et ils racontent comment il y a un homme qui était dans sa ferme. Il a reçu le journal. Il était malade. Il avait la pneumonie, ou la tuberculose, je sais pas quelle maladie. Il lit les articles. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est guéri de sa tuberculose. Et ensuite, il envoie son témoignage. Simplement, et il priait sur les paquets de journaux qu'ils envoyaient avant de les envoyer. Vous voyez? Bon, maintenant, je ne sais pas si quelqu'un avait prié sur cette revue, je ne pense pas. Mais quoi qu'il en soit, ce titre et ce texte, tout à coup, je savais qu'il y avait une connexion divine. Vous suivez? Et puis, j'en parle avec mon pasteur, qui n'a pas trouvé plus pressé de dire. Mais après, vous allez voir comment dire, la capacité de se remettre en question, qui était aussi sa force. Il a dit à l'église, voilà, j'apprends par Jean-Hugues qui nous a traduit un article que soi-disant, enfin peut-être qu'il y aurait le réveil au Canada, je veux bien le croire, mais est-ce qu'on a besoin d'aller au Canada pour avoir le réveil? Dieu est capable de nous visiter ici, oui ou non? Alors tout le monde trouve que c'est sage et lui-même avait l'impression de dire quelque chose de sensé, et sur le fond, c'est vrai, évidemment que Dieu peut agir partout. Mais il m'a dit après, au moment où j'ai dit ça à l'église, le Saint-Esprit m'a repris en disant, et si je voulais que tu y ailles? Vous voyez? Et donc, il parle avec sa femme le soir, et puis il lui dit, tu vois, j'ai l'impression que j'ai parlé trop vite. Elle lui dit, oui, t'as encore parlé trop vite. Parce qu'elle aussi avait reçu cette conviction. Donc finalement, il reparle à l'église, il dit, écoutez, je vous demande pardon, j'ai parlé trop vite, mais je crois qu'on va y aller. On prend le billet d'avion, on organise le truc, on va là-bas, et puis Dieu nous a visités, et puis voilà, ça c'est l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a vécu, mais ce qui était intéressant, c'était cette connexion et le fait que parfois, Dieu nous appelle à aller quelque part ou à faire une sorte de, comment dire, de. Vous voyez, il faut que les ossements se rassemblent. Vous suivez? Et ensuite, il donne la vie. Alléluia. Donc, où est-ce qu'on en est? Il donne la vie. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que si vous voulez, nous, on peut décréter, on peut dire avec toute la sagesse possible et imaginable, il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de mètres carrés, il n'y a pas assez de je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez raconter, enfin, ah, comme c'est sage, comme ça sonne bien de dire ça, vous voyez? Mais Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne lui fait pas confiance? Ou bien quelqu'un qui n'a plus à, qui a perdu un membre. Non, mais j'ai plus de thyroïde, j'ai plus de. Mais Dieu appelle à l'existence qui n'existe pas. Prie. Cherche la face de Dieu, dis Seigneur, tu es capable. Vous comprenez? Et il y a combien de témoignages de reins qui ont repoussé, d'estomacs qui ont repoussé, de. Enfin, vous voyez? Combien? De jambes qui ont repoussé. C'était Smith Wigglesworth qui devait dormir chez un prêtre catholique dans un voyage. Enfin, il circulait pour faire ses missions. Et puis il était accueilli chez un prêtre catholique. Qui était cul-de-jatte. Il était sur une chaise roulante, il était cul-de-jatte. Et le soir, ils soupent ensemble. Ils ne disent pas grand-chose. Et Smith Glosser lui dit, demain matin, allez acheter des chaussures. C'est tout. Il n'a rien dit d'autre. Et le prêtre a compris. Smith Glosser est parti dans son itinéraire. Et puis lui, il a été au magasin de chaussures avec sa chaise roulante. Et puis il demande à la vendeuse, il dit, ben, j'aimerais acheter une paire de chaussures. Alors elle voit bien sûr qu'il est cul-de-jatte parce qu'il n'y avait pas de prothèse. Hein, c'était. Et puis elle lui dit, mais quelle taille? Alors il dit une taille au hasard, style 42, vous savez, la première qui vient à l'esprit. Alors elle va chercher les chaussures, il dit, posez-les devant là. Et puis au moment où elle les a posées par terre, les jambes ont commencé à repousser. Et les pieds sont entrés dans les chaussures. Il était entièrement, il n'était pas juste guéri, il était recréé. Vous voyez? Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut s'attendre à des choses plus grandes. Vous suivez? Notre problème, c'est que si on se limite à ce qui existe, vous savez, il y a une loi scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein, c'est le premier principe de la thermodynamique. Mais ça, c'est le monde physique dans lequel on vit. Ça, c'est les principes élémentaires du monde. Principe de la thermodynamique, premier principe de la thermodynamique. Mais ce principe élémentaire, on n'y est pas soumis, nécessairement. Si je marche par la foi, je marche devant le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Donc il faut élargir notre vision, que ce soit dans le domaine des finances, de la guérison, etc., etc. Espérant contre toute espérance. C'est une belle expression, hein. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire les espoirs normaux sont arrivés à terme. On dit ça, on ne peut plus espérer, mais lui, il espère quand même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les circonstances d'Abraham et Sarah, si vous rappelez l'histoire, étaient compliquées parce que Dieu leur promet un fils, mais ils ont passé 90 ans tous les deux. Abraham, elle a largement dépassé la ménopause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus trop de. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir qu'une femme de plus de 90 ans ait des enfants. Et lui aussi, il est très âgé. Donc, il a espéré contre toute espérance. Il a cru. Il est devenu ainsi père d'un grand nombre de nations selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance, verset 19, et sans faiblir dans la foi. Alors, selon les traductions, il ne considéra pas ou bien il considéra. Dans certains manuscrits, ce n'est pas la traduction, mais dans certains manuscrits, il y a la négation, dans d'autres, il n'y a pas la négation. Alors, si c'est marqué, il ne considéra pas, ce qui est possible, ce n'est pas moi qui vais vous dire quel manuscrit est le meilleur, parce que ce n'est pas C'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Mais si c'est marqué, il ne considéra pas son corps presque mourant, c'est dans le sens que il n'en a pas tenu compte pour faire cesser toutes ses espérances. D'accord? Il a regardé plus loin. Maintenant, si c'est marqué, il considéra son corps presque mourant, ça veut dire il en a tenu compte au sens qu'il savait très bien qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais néanmoins, il a eu la foi. Donc, dans un sens comme dans un autre, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? Puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort, il était nécrosé, hein, littéralement. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Vous rappelez ce que je disais? C'est que si je cherche la gloire des hommes, je ne peux pas être dans la foi. Mais si je cherche la gloire de Dieu, je reste dans la foi. Comprenez? Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Cette phrase-là est très importante du verset 21. D'accord? Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. J'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 1 quelque chose d'intéressant. J'ai fait une découverte récemment, enfin une découverte. J'ai remarqué quelque chose. Parce que j'aime beaucoup la Bible à la colombe, parce qu'elle a des notes de traduction qu'il n'y a que dans cette version-là. Alors les traducteurs ont été timides, parce que en fait, souvent les notes de traduction, ils donnent littéralement voilà ce qui est marqué dans le texte. Ce serait beaucoup mieux de mettre, non pas dans les notes, mais dans le texte. Enfin, qui est imprimé, d'y mettre ce qui est marqué littéralement, parce que ça a beaucoup plus de poids. Mais par une espèce de crainte de changer le texte de la seconde qui a tellement influencé toutes les églises françaises depuis 1905, ou pas 1901, pardon, ou 1902, je ne sais plus, enfin, depuis le début du XXe siècle, par crainte si vous voulez, de toucher à cette traduction sacro-sainte, ils mettent dans les notes littéralement. Moi, je ne mettrais pas dans les notes, je mettrais carrément dans le texte, puisque c'est ça qui est marqué. Vous suivez? On est tellement habitué à nos traductions que ça, on ronronne dessus, et puis. Bon, alors, j'ai dit Luc.
Il y a la Chouraki aussi qui est traduite.
La Chouraki est intéressante aussi, mais il faut quand même être un tout petit peu prudent, parce que des fois, je veux dire, c'est un peu de la poésie, mais c'est très intéressant. Il y a des traductions comme la Chouraki qui sont intéressantes pour la comparaison. D'accord? Mais c'est vraiment intéressant, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comparer les traductions et pas rester juste dans une seule. Vous voyez? Alors, oui, c'est ça. Vous savez que l'ange va d'abord parler à Zacharie, le sacrificateur, c'est au début de l'histoire de la naissance de Jésus. Et puis, il lui dit, tu as prié pour avoir un enfant, et ben voilà, Dieu a répondu à ta prière. Il est dans le temple, il a cette vision, et puis il dit, mais à quoi reconnaîtrai-je, parce que je suis vieux, et ma femme aussi, alors comment je vais avoir des enfants? C'est la même histoire qu'Abraham et Sarah. Hein. Et puis l'ange lui dit, moi je me tiens devant Dieu, je suis venu t'apporter un message, t'as pas cru à mon message, tu seras muet. Voilà. Donc il sort, il peut plus parler, il fait des gestes, et le peuple comprend qu'il a eu une vision, et puis il rentre chez lui. Et puis effectivement, sa femme devient enceinte, elle était âgée, mais elle devient enceinte. Alors, elle se cache pendant 5 mois. Elle est un peu, vous savez, une femme âgée qui a un enfant. Elle ne sait plus très bien où se mettre. Mais finalement, ben, tout le monde sait qu'il y a un enfant. Alors, c'est vraiment le buzz dans les montagnes de Judée, dans ces familles. Tout le monde discute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu nous aurait visités, etc. Et puis, le jour, et puis tout le monde sait aussi que le sacrificateur a eu une vision et qu'il est toujours muet. Ça fait 9 mois que ça dure. Et puis, le jour de la naissance du petit, tout le monde veut l'appeler Zacharie parce que. La tradition, c'est qu'il porte le nom de son père. Et puis, Élisabeth, la mère, dit non, non, il sera appelé Jean. Et puis, à ce moment-là, Zacharie demande une tablette et il écrit son nom est Jean. Et à ce moment-là, sa bouche se délie et il se met à prophétiser. Donc, vous voyez un peu la visitation qu'il y avait dans les montagnes de Judée. Jean-Baptiste avait été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais avant sa naissance, c'est le même ange, Gabriel, va voir Marie. Elle n'est pas dans le temple, elle est chez elle. Et puis, il lui dit, toi qui une grâce a été faite. Et il lui dit que qu'elle va avoir un enfant. Mais elle, par contre, elle est fiancée, mais fiancée dans les principes du judaïsme, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas d'homme. Et elle lui dit, mais je connais pas d'homme, tu me dis que je vais avoir un enfant, il y a un souci. Elle ne comprend pas, voyez? Et là, ce n'est pas de l'incrédulité, c'est légitime comme question. Voyez? Et l'ange lui dit, non, mais ne crains pas, tu vas, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre du Très-Haut te visitera, et l'enfant que tu vas. Qui va naître de toi et sera conçu par le Saint-Esprit. Et il viendra de Dieu. Il s'appellera Fils de Dieu. Et puis, pour l'encourager, il lui dit au verset 36, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Réfléchissez. Celle qui était appelée stérile, qui était âgée, que tout le monde savait, elle n'a jamais eu d'enfant. Pauvre. Pauvre Zacharie, pauvre Élisabeth, comme on les plaint. Parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était une catastrophe. Oui, aujourd'hui, c'est un peu. Ça s'est plutôt inversé. Si vous avez un enfant, on considère que c'est une catastrophe. Si vous n'en avez pas, on considère que vous êtes béni. Comme quoi, les époques changent. Hein. Mais on est formaté, on est conditionné par comment dire, une mentalité qui est assez particulière. Je referme cette parenthèse. Et qui n'est pas de Dieu. Donc, celle qu'on appelait stérile. Vous savez, ça fait appel à des textes de l'Écriture, Ésaïe 54, la stérile, enfante cette fois, réjouis-toi stérile, chante, crie de joie, parce que tu enfanteras, etc., etc. Vous voyez? Et donc, il y a plein de miracles de femmes stériles qui enfantent dans l'Ancien Testament. Rachel, Rebecca étaient stériles. Et Sarah, bien sûr. Hein, les trois, chaque patriarche, vous remarquerez dans la Genèse, chaque patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, chaque patriarche fait face au même défi. Sa femme est stérile. Ça se répète à chaque fois. Et chaque fois, ils ont besoin de prier et d'avoir une percée dans ce domaine. Vous suivez? Vous avez des églises qui sont stériles. On fait tout, on fait de l'évangélisation, on fait des kermesses, on fait des fêtes de Noël, on fait des fêtes de Pâques, on fait des fêtes de. On fait même le carnaval dans l'église pour que les gens viennent. On leur parle de l'évangile. Hein? Il y a toutes les méthodes possibles et imaginables. Je connaissais un évangéliste en Suisse. Il montait, à l'époque, il y avait encore les cabines téléphoniques. Il montait sur les cabines téléphoniques. Et puis, quand les gens venaient pour téléphoner, il ne faisait pas attention qu'il était au-dessus. Et puis, quand il sortait de la cabine téléphonique, il faisait coucou. Alors, les gens regardaient comme ça. Et puis, il engageait la conversation et il parlait du Seigneur en disant, vous ne regardez jamais en haut, mais Dieu vous voit, etc., etc. Vous voyez? Mais. Donc, vous pouvez même monter sur les cabines téléphoniques, mais quand il y a la stérilité, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas au salut, ou bien ils viennent à l'église, ils sont contents, mais ils repartent, il y a quelque chose qui. L'enfantement ne se fait pas. Et on aurait tendance à dire, bon, alors, ça ne marche pas, je ne comprends pas, et on se décourage. Vous suivez? Et ces hommes de l'Ancien Testament ont fait face à ce genre de défi. Là, c'était dans le naturel. Là, je vous parle en spirituel. Mais être fils d'Abraham par la foi, c'est espérer contre toute espérance, vous comprenez? Et dire, ok, pour le moment, mon église est stérile, ou l'église dans laquelle je suis est stérile, mais je sais que le Dieu auquel je crois et devant qui je marche est capable de donner des enfants à la femme stérile, à l'église stérile. Vous suivez? Et donc, il faut persévérer. On va voir ça au chapitre 5. On est dans Luc chapitre 1. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu, verset 37. Ok? Or, littéralement, il n'est pas marqué rien n'est impossible à Dieu. Vous savez ça? J'ai regardé dans toutes les traductions, danois, allemand, anglais, Colombe, Second, Darby, tout, j'ai tout regardé. Toutes les traductions disent rien n'est impossible à Dieu. Mais dans le texte original, il est marqué. Dans le texte original, il est marqué. Aucune parole de Dieu, aucune parole de Dieu ne sera sans effet. Vous voyez la nuance? Aucune parole de Dieu ne sera sans effet. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce qui est beaucoup plus logique comme réponse. Vous voyez? Aucune parole du Seigneur ne sera sans effet. qui me soit fait selon ta parole. Et dans le texte grec, j'ai regardé le texte grec, effectivement, il y a le mot rhéma qui est dans le texte et qu'on n'a pas dans le texte français et dans toutes les traductions depuis Luther, passant par Calvin et compagnie. Je ne sais pas pourquoi on a gommé ce mot parole. Ce n'est pas trop grave, parce que c'est vrai que rien n'est impossible à Dieu. C'est marqué dans Marc 9 et dans d'autres textes. Donc, si vous voulez, ce n'est pas, c'est pas anti-biblique, c'est tout à fait biblique. C'est, du point de vue doctrine, il n'y a pas de problème, mais c'est juste dommage que dans ce passage précis, on ait escamoté un mot important. Bien sûr qu'il peut être aussi traduit ce mot par affaire, chose, aucune chose de Dieu n'est impossible, donc rien n'est impossible. On peut aussi interpréter comme ça, mais c'est intéressant de relever le mot parole. Ça veut dire que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, Ésaïe 55. Et ici, je reviens dans Romains chapitre 4, il est dit, verset 21, Romains 4, 21, « Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. » Alléluia. Vous suivez? Donc notre foi, elle est basée non seulement sur le « à Dieu rien n'est impossible », parce que ça c'est un peu une déclaration un peu générale. Tout le monde dira « oui, bien sûr, Dieu il peut tout faire ». Mais si Dieu l'a promis, et me l'a promis, et qu'il l'a dit, c'est beaucoup plus personnel et spécifique, vous comprenez? L'ange a dit de la part de Dieu à Marie, tu vas avoir un fils. Et elle dit qu'il me soit fait, selon ta parole, sous-entendu, la parole me suffit. Avec cette parole, la chose va s'accomplir. Parce que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Il a la puissance de l'accomplir. Et donc Abraham savait que parce que Dieu avait parlé, malgré toutes les circonstances qui étaient contraires, malgré les années qui avaient passé, parce que ça fait quand même 25 ans, il a attendu environ 25 ans pour que la promesse s'accomplisse. Et parfois Abraham devait dire, écoute Seigneur, il y a 25 ans, encore peut-être on aurait pu avoir un enfant. J'avais 75 ans à l'époque, j'étais déjà vieux, mais enfin, j'étais un peu plus proche de la fertilité que de la stérilité. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Vous voyez ? Il avait des raisons de se plaindre. Ou de s'interroger, ou de douter. Il avait toutes les raisons d'arrêter de croire, d'abandonner. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce... Et puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, ça c'est sa mort, et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Mais ce qui est intéressant quand même dans ce passage de Romains chapitre 4, et j'aimerais juste conclure avec ça pour cette première session, c'est que on ne parle pas juste de la foi d'Abraham, Genèse chapitre 15, verset 6, quand Dieu le prend par la main, il dit, écoute, enfin, c'est pas marqué comme ça, mais quand Dieu lui dit, sorte ta tente, compte les étoiles si tu peux, et puis Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice, ou compté comme justice, très bien, mais c'est comme si Paul développe en disant, la foi d'Abraham, ça a été tout un processus, vous voyez, c'était une vie de foi, c'était tenir dans la foi, c'était espérer contre toute espérance. C'était marcher devant Dieu. Vous suivez? Et donc, Dieu devant qui il a cru. Et donc, si vous voulez, c'est important de comprendre ce Romains chapitre 1, verset 17, quand il est dit « Le juste vivra par la foi. » Ou par sa foi, selon Habacuc. Dans le texte d'Habacuc, c'est marqué « Le juste vivra par sa foi. » Vous voyez? Et donc, quelque part, il y a une sorte de moment dans votre vie où c'est vos circonstances, c'est pas celles des autres. Bien sûr, vous pouvez avoir des témoignages qui vous encouragent. Bien sûr, vous pouvez être jaloux de quelqu'un en disant « Bah lui, remarquez, regarde, pour lui, c'est facile, pour elle, c'est facile. » C'est vos circonstances. C'est votre dilemme personnel. Et c'est dans ces circonstances, dans ces épreuves, dans ces difficultés-là, que Dieu, qui suscite la foi, d'accord, eh bien, vous accorde la grâce de vivre par la foi, de marcher par la foi comme Abraham. Amen. Et c'est cette foi qui nous est comptée comme justice. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment une vie. On parle de la foi d'Abraham, mais là, on parle de sa vie dans Dieu. Il a marché par la foi, il a persévéré, il a...
Il a douté aussi. Hein.
Il a eu aussi des moments, bien sûr, des moments de crise dans sa foi, mais Paul insiste sur le fait que finalement, il était pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a dit. Il a la puissance de l'accomplir. Alors, on pourrait dire peut-être que Paul est un peu trop positif par rapport au texte de la Genèse, où des fois, on a l'impression qu'Abraham est vraiment... Mais ça dépend comment tu interprètes l'histoire, d'accord ? Il y a deux moments clés où Sarah parle à son mari. Il y a eu une fois où Abraham n'aurait pas dû l'écouter, et il l'a écouté. Et une autre fois où il ne veut pas l'écouter, et Dieu lui dit « si, tu fais ce qu'elle te dit ». Vous voyez comment on est nous les hommes. Hein. Bon. Mais si vous voulez, Paul interprète ça comme une foi de base qui était solide et qui est restée solide, même si en surface il y a eu des hauts et des bas. D'accord? Ouais. C'est une marche. Ok? Et la route peut être longue. Vous suivez? Parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui nous sont accordées tout de suite, on a l'impression que c'est facile, là, boum, le miracle arrive, on n'a même pas eu le temps de prier, que ça y est, c'est bon. Puis il y a d'autres choses, ça dure, ça n'en finit jamais, on dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Vous savez que cette question, elle revient souvent dans les psaumes, ou dans d'autres textes, mais surtout dans les psaumes, Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi? Jusqu'à quand? Vous voyez? Et donc, on va voir dans la prochaine session ce qui concerne justement la persévérance. Amen?
Mmh.
À tout de suite.